Radio Kapi. Oh, Kapi. Beli la bosuma pour le journal.
Vingt provinces de la RDC connaissent désormais les noms de leurs nouveaux dirigeants ainsi que les noms des nouveaux sénateurs. Pour Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki est élu gouverneur. Dans le Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe est reconduit à ce poste. Le Sud-Kivu cependant doit attendre pour connaître ses nouveaux dirigeants. Motif, aucun candidat n'a pu atteindre la majorité absolue de 25 voix sur les 48 votants. Journée nationale de l'enseignement, c'est aujourd'hui 30 avril. Dans la Tchopo cependant, certains enseignants disent n'ont pas trouvé l'opportunité de commémorer cette journée en cause ce qu'ils qualifient de manque de considération de la part du gouvernement. Et puis, Nord Kivu, de nombreuses naissances sont enregistrées dans les camps des déplacés et d'autres structures non loin des camps, mais ces nouveaux-nés sont rarement enregistrés à l'état civil. Constat du groupe Martin Luther King qui intervient régulièrement dans les camps des déplacés, le responsable de cette association est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le successeur de Gentili Ngobila est désormais connu. Il s'agit de Daniel Bumba Lubaki. Il est élu nouveau gouverneur de la ville province de Kinshasa après avoir obtenu la quasi-totalité des voix lors de l'élection organisée hier lundi. La joie était totale du côté des nombreux soutiens venus assister à ce rendez-vous. Greta Lulendo nous décrit l'ambiance vécue sur place à l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans ce reportage.
Lundi 29 avril 2024, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est envahie par une foule immense des militants de plusieurs partis politiques, dont le MLC, l'UDPS, l'FDC et la REP, sans oublier des jeunes des forces du progrès. Tous sont venus soutenir leurs candidats. Des pas de danse sont exécutés au rythme des fanfares et tam-tam. À 15h40, débute le dépouillement des résultats des votes devant les témoins accrédités par la CENI. Il commence par le comptage de bulletins de vote des sénateurs pour finir avec ceux de gouverneurs. Pendant ce temps, les Kinois attendent impatiemment de connaître le successeur de Gentili Ngobila Mbaka. Enfin, le mystère est levé. Au bout de 30 minutes, Daniel Bumba Lubaki et Iyeli Molangi Edi sont élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec 37 voix. Pour le ticket Vidi Echimanga Rulili Lunzazi, ça n'a pas marché. Il obtient 10 voix sur le 47 exprimé. Dans l'enceinte du bâtiment qui abrite l'Assemblée provinciale et dehors, des cris de joie et des ovations de l'assistance résonnent. Autre résultat, c'est celui des sénateurs. Pour Kinshasa sont élus Augustin Kabuya, Ivan Kazadi, Gérard Moulumba, Arlette Bati, Anne Mbungouje, Gentili Ngobila et Jacques Lungwana.
Du côté du Haut-Katanga, c'est Jacques Kiabula Katwe qui est reconduit à son poste de gouverneur. Il obtient 35 voix sur 47 votants. L'amélioration du social de la population de cette province est la principale attente de la société civile. C'est ce que nous dit Grace Amzati dans ce reportage.
34 et 35.
C'est dans ce climat détendu que les opérations de vote se sont déroulées à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pendant environ 6 heures du temps. Le président provincial du cadre des concertations de la société civile qui salue la quiétude qui a caractérisé cet événement parle des attentes de la population.
Nous venons de constater que le vote s'est bien déroulé. En tout cas, il n'y a pas eu des incidents majeurs du début à la fin. Et nous constatons que c'est le gouverneur Kiabula qui vient d'être réélu. Nous sommes société civile. Tout ce que nous attendons de lui, c'est de faire de cette province une des provinces développées, c'est-à-dire de répondre aux attentes profondes de la population, c'est-à-dire avoir accès à l'eau, à l'électricité, avoir accès à l'emploi. Bref, de faire de cette province une province développée.
Quant au vote des sénateurs dans cette province, Jean-Michel Samalou Kondé, indépendant avec 13 voix, Salomon Idi Kalonda, des Ensemble pour la République, 11 voix, Jacques Kiabula, du regroupement politique RDF A, 7 voix, et Kapande Kapwa Jean-Félix, 6 voix, sont les 4 premiers en attendant la proclamation officielle des résultats par les institutions compétentes. Depuis Lubumbashi, Vanessa Kongolo et Grace Amzati, Radio Kapi.
Cependant, la province du Sud Kivu doit encore attendre pour connaître son nouveau gouverneur et son vice. À l'issue des élections d'hier, en effet, aucun candidat n'a pu atteindre la majorité absolue des 25 voix sur les 48 votants. Le premier, Jean-Jacques Pouroussi de l'FDCA, a eu 20 voix, tandis que son poursuivant direct, Émile Soumaïli de l'UNC, a obtenu 15 voix. Deux autres candidats obtiennent chacun 6 voix. Ainsi, un deuxième tour sera organisé selon la loi électorale. Pour les 4 sénateurs élus du Sud Kivu, il s'agit de Norbert Basengezi, Modeste Bahati, Eustache Mwandi et Boulakali Aristide. Signalons que les opérations de vote et de dépouillement à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu se sont déroulées en l'absence des journalistes pourtant accrédités. Vous le savez, 20 provinces sur les 26 de la RDC connaissent désormais leurs dirigeants et leurs représentants au niveau du Sénat. Seules les provinces de l'Équateur, du Kwilu, de Maïndombe, de l'Ituri et du Nord Kivu n'ont pas eu d'élection et seront obligées de patienter encore quelques semaines pour avoir leurs représentants au Sénat, mais aussi leurs gouverneurs des provinces. Après délibération en plénière, la CENI confirme les résultats issus des urnes et déclare élus provisoirement les candidats gouverneurs ayant obtenu la majorité absolue des voix, soit la moitié plus une voix des suffrages exprimés. Michel Kifindangoy.
Conformément aux articles 159 et 171 de la loi électorale, tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue des votes dans les 21 provinces sont déclarés élus gouverneurs des provinces. Il s'agit de Moïse Moussa, élu provisoirement gouverneur de Maniema, Banza Mouloumé de Olomami, Jean Bakomito de Owele, Jean-Paul Mbwembwe de Kasaï Oriental, Fifi Masu Kasaïni de Lualaba, Christian Kitungwa du Tanganyika, Jacques Kiaboula du Okatanga, Crispin Mukendi du Kasaï, Kalombo Moussoko de la Lomami, Paulin Lendongolia de la Tchopo, Grace Bilolo du Congo Central, Willy Bituisila du Kwango. D'après la CENI, un second tour sera organisé dans les 72 heures au sud Kivu, où aucun candidat gouverneur n'a obtenu la majorité absolue de voix. Quant à l'élection des sénateurs, Paul Onana, Afani Idrissa, Justin Kalumba et Faustin Luanga sont élus sénateurs au Maniema. Vicky Katumwa, Christine Mwando, Masudi Kilele et Patricia Mpungwe en sont élus au Tanganyika. Dans le Haut-Katanga, Salomon Kalonda, Samalu Konde, Jacques Kiaboula et Jean-Félix Mopande sont élus sénateurs.
Dans l'actualité aussi, le président Félix-Antoine Tshisekedi entame le deuxième et dernier jour de sa visite officielle à Paris en France. Son agenda prévoit une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Les questions sécuritaires avec la situation dans l'Est de la RDC seront au cœur de leurs échanges, selon les services de communication de la présidence de la RDC. Félix Tshisekedi est également attendu à l'école militaire où des discussions avec le ministre français des armées sont prévues. L'économie est un enjeu majeur de cette visite. C'est dans ce cadre que le président de la RDC va participer à Bercy, siège du ministère français de l'économie au Business Forum RDC France. C'est une table ronde avec des hommes d'affaires français, potentiels investisseurs en RDC. Notez que dans la soirée d'hier, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec des Congolais de la diaspora qui résident en France. C'est notamment pour le vernissage du livre intitulé « Pour un Congo retrouvé », livre dont il est l'auteur. Comme dit dans le sommaire, la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui 30 avril, la journée de l'enseignement. Dans la province de la Tchopo, certains enseignants disent n'aient pas trouvé l'opportunité de commémorer cette journée à cause de ce qu'ils qualifient de manque de considération de la part du gouvernement. Cet état de choses est à la base de ce qui est considéré par beaucoup comme un échec du nouveau système d'enseignement LMD, licence, master, doctorat. Reportage de Jacques Moukonkolé.
Alors qu'à l'EPST, l'on se prépare à célébrer la journée du 30 avril dédiée aux enseignants dans les milieux scientifiques et académiques, c'est quasiment de l'indifférence manifeste, comme l'explique cet assistant.
On célèbre quelque chose quand on est dans la joie. Et donc c'est tout simplement question de revoir la façon de considérer les enseignants, de revoir la façon de les traiter.
Outre les mauvaises conditions sociales, le personnel de l'ESU dénonce également le nouveau système d'enseignement qui, selon eux, a été mis en œuvre dans la précipitation.
Si en 5 ans, on n'a pas pu former quelqu'un de très compétent, comment en 3 ans, les conditions socio-professionnelles étaient par ailleurs les mêmes, on puisse se former et licencier entre guillemets.
Les étudiants, quant à eux, déclarent qu'avec ce système, ils éprouvent d'énormes difficultés. Même ceux qui sont censés trouver des solutions à leurs problèmes sont limités, affirme-t-il.
Pendant les délibérations, les membres du jury n'ont pas tenu compte des critères de délibération du système LMD. Nous sommes allés aider nos cas. Ils nous ont répliqué en disant que ce n'était pas de leur faute et qu'ils n'ont juste pas maîtrisé le système LMD.
Pour l'efficacité de l'enseignement, ces enseignants conseillent le retour à l'ancien système. Ils demandent également au gouvernement de les considérer à leur juste valeur. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Cap.
Par ailleurs, une salle de classe avec 120 élèves ou plus, cela se passe dans plusieurs écoles primaires dans la province du Kwilu. Ces effectifs pléthoriques ne permettent pas un enseignement de qualité, quand bien même la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État a permis de ramener plusieurs enfants non scolarisés sur le chemin de l'école. Les infrastructures tardent à suivre dans plusieurs territoires. C'est ce que déplorent de nombreux parents et surtout les enseignants. Ces derniers, à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la Journée nationale de l'enseignement, plaident pour une intervention urgente pour que leur situation soit améliorée. Irène Boma.
Au-delà de la réduction du taux d'analphabétisme en RDC et l'allègement financier pour les parents, la gratuité de l'enseignement de base reste confrontée à un réel défi, celui des infrastructures. Fiti Lambeye est le président provincial de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST Kwilu 1. Il en appelle à la responsabilité du gouvernement congolais.
Que le gouvernement prenne encore la disposition de construire des écoles et multiplier les bâtiments parce qu'il y a le pléthore. Et une classe de 120 élèves, 110 élèves, il faut qu'on puisse chercher aussi à ajouter les enseignants dans des écoles primaires.
Il faut engager d'autres enseignants, suggère-t-il, mais encore faudra-t-il que ceux qui sont en place puissent être rémunérés et qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, car pense Madine Dabeto, l'un des parents de la ville de Bandundu, la qualité de l'enseignement en dépend.
Mais ce qui fait mal, les enfants sont devenus nombreux dans des salles. Hein. Il y a l'encombrement. Il y a aussi des enseignants NI qui ne sont pas payés. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions. D'autres enfants se mettent les briques. Notre enseignement a baissé un peu. Les enfants sont nombreux. Comment est-ce qu'on va les encadrer?
En tout cas, ce souci est partagé par plusieurs parents à travers la République. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis, nous avons pris la difficile décision de suspendre les vols vers Kinshasa à compter du 30 avril jusqu'à ce que nous puissions soutenir efficacement ces vols. C'est par ces mots de son président directeur général, Alan Kilavuka, que Kenya Airways annonce la suspension de ses vols à destination de Kinshasa à partir de ce mardi. Raison avancée, la détention continue de ses employés par la détection militaire des activités anti-patrie des MIAP. Dans un communiqué, la firme kenyane Cedi n'est pas être en mesure de soutenir efficacement ces vols sans personnel. La détention continue de nos employés a rendu difficile la supervision de nos opérations à Kinshasa qui comprennent le service client, la manutention au sol, les activités de fret et de manière générale, la garantie de la sécurité, opérations sécurisées et efficaces, renseigne le communiqué. Direction le Sud Kivu. Avant de quitter la RDC, dans le cadre du départ de la MONUSCO, le contingent chinois remet des équipements d'ingénierie et médicaux aux autorités congolaises d'une valeur de près de 7 millions de dollars. La cérémonie a eu lieu hier à Amsar, dans le territoire de Kabare, dans le camp du contingent chinois. Cette activité cadre avec le processus de désengagement de la MONUSCO de la province du Sud Kivu. Rachel Kiesé, reportage.
Affirmatif. Le contingent chinois de la MONUSCO fait un don d'équipement et de biens d'une valeur de 7,3 millions de dollars au gouvernement congolais. Il s'agit d'environ 20 véhicules, des outils d'ingénierie, près de 43 000 équipements médicaux, y compris une ambulance. Cette donation vise à soutenir les autorités congolaises dans leurs besoins de construction et de développement. Le gouvernement provincial du Sud Kivu rassure que cette aide serve à consolider la paix, la sécurité, mais également les infrastructures de la province. Sisawa Numbe, représentant du gouverneur du Sud Kivu et point focal avec la MONUSCO chargée du désengagement.
Ces matériels seront confiés au génie militaire en collaboration avec l'office des routes. C'est pour un peu les équiper pour qu'il y ait les outils de travail. pour nos routes nationales, mais aussi nos routes des secteurs agricoles. On ne peut pas déployer des unités en cas de menace de sécurité ou de paix s'il n'y a pas de voie de communication.
Le commandant adjoint de l'administration et logistique à la 33e région militaire exhorte les FARDC à un entretien rigoureux de cette base leur léguée. Le souhait du commandant du contingent chinois est que ces dons contribuent au développement d'un meilleur avenir pour la RDC. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un barrage s'est effondré dans l'ouest du Kenya tôt hier, tuant au moins 40 personnes après que les eaux aient emporté des maisons sur leur passage et coupé une route principale selon la police. Des pluies diluviennes s'abattent sur Kenya depuis la mi-mars. Plus de 200 000 personnes ont été touchées, les maisons des zones inondables étant submergées et les gens cherchant refuge dans les écoles. Le président William Ruto a demandé au Service national de la jeunesse de fournir un terrain pour servir de camp temporaire aux personnes touchées.
L'invité.
Nous sommes au Nord Kivu. Un grand nombre de naissances est enregistré dans les camps des déplacés et autres structures locales situées non loin des camps. Cependant, ces nouveaux-nés sont rarement enregistrés à l'état civil par leurs parents. Ce constat est fait par le groupe Martin Luther King qui intervient régulièrement dans les camps des déplacés. Christophe Mutaka, responsable de cette association congolaise pour la non-violence et les droits humains, est notre invité. Il dit craindre d'éventuelles conséquences plus tard pour ses enfants une fois la guerre terminée. Il est avec Sifa Maguru.
Christophe Mutaka, bonjour.
Bonjour madame.
Le groupe Martin Luther King vient de faire une note de plaidoyer pour l'enregistrement des enfants dans les camps des déplacés internes au Nord Kivu. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui vous préoccupe?
Oui, merci madame. Et donc la situation, ça fait plus de deux décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est déchiré par des conflits avec des déplacements permanents parmi les conséquences. Et donc la problématique de l'enregistrement des enfants au bureau de l'État civil est l'une des grandes question en matière de protection de l'enfant. Nous avons constaté que les enfants qui naissent dans les camps ne sont pas enregistrés à l'état civil. Et une fois ces enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil, c'est un grand problème de protection parce que ces enfants risquent de ne pas être des Congolais. Ça veut dire qu'ils risquent de perdre l'identité, ils risquent de devenir des apatrides. Et là, devant cette situation, nous nous sommes dit, nous devons faire un effort pour arriver à mener ces plaidoyers pour que ces enfants qui naissent dans les camps de la ville de Goma et ses environs soient enregistrés à l'état civil, c'est-à-dire être reconnus par l'État congolais comme des citoyens et des citoyennes.
Peut-on avoir une idée sur les chiffres, les nombres d'accouchements en moyenne dans les camps? On sait qu'on a beaucoup, beaucoup de camps. Si on prend même l'axe Boulengo, il y a plusieurs camps là-bas, sans compter l'axe Kanyaruchinya, ceux qui sont venus avant. On peut estimer à combien les naissances?
Les naissances dans le centre de santé aux environs de Mugunga, il y a entre 150 et 200 enfants qui naissent le mois. Et là, ce sont des enfants que les structures médicales déclarent. Mais ce ne sont pas des enfants enregistrés à l'état civil, madame. Ça veut dire que si on peut extrapoler sur les autres camps de la ville de Goma et ses environs, vous allez comprendre que le chiffre est très élevé et tous ces enfants qui naissent ne sont pas enregistrés à l'état civil et donc n'ont pas d'identité.
Qu'est-ce qui justifie cette situation? Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui pose problème pour que ces enfants soient enregistrés?
Justement, le problème se pose en termes de manque de registres. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de registres dans la province, d'une manière générale, et d'une manière spécifique dans le camp. Il n'y a pas de registre pour que ces enfants soient enregistrés à l'état civil. Mais parfois, on arrive, on dit, bon, l'enfant est encore dans les délais. On arrive au bureau de l'état civil, on vous dit, il n'y a pas de registre. Vous y passez deux fois, trois fois, et à un moment donné, on vous dit, non, vous n'êtes plus dans les délais. Mmh. Alors, vous êtes obligé d'aller vers le tribunal pour enfants, pour des démarches qui vont coûter beaucoup d'argent, alors que vous étiez dans les délais, mais faute de registre, vous ne pourriez pas faire enregistrer votre enfant. Cette apatridie a des conséquences graves. Par exemple, on ne peut pas avoir une attestation de nationalité quand on n'a pas un acte de naissance. On ne peut pas aller à l'étranger avoir un passeport si on n'a pas un acte de naissance. Il y a des pays qui exigent, par exemple les États-Unis, qui exigent que pour qu'un enfant aille dans leur pays, il faut qu'on puisse brandir un acte de naissance. Pour avoir du travail, que ce soit du travail, que ce soit une bourse d'études, il faut brandir un document, un acte de naissance qui prouve réellement que vous êtes de ce pays-là. Ça fait que tous ces enfants qui naissent risquent de connaître des situations difficiles seulement parce qu'ils n'ont pas les actes de naissance.
Dans les contextes locaux du Nord Kivu, ces enfants qui sont en train de naître en dehors de leur milieu d'origine, de leur territoire et village d'origine, est-ce que vous craignez que une fois la guerre terminée, ces familles rentrent, est-ce que ces enfants peuvent avoir des problèmes identitaires là-bas?
Justement, les problèmes d'identité vont se poser parce que il n'y a aucun document qui va prouver que ces enfants sont nés dans le camp à Goma et ses environs. Aux yeux de la loi, ces enfants n'existent pas. Et donc, le fait de ne pas exister pour ces enfants, c'est un grand problème de protection. Voilà pourquoi nous devons mettre une attention particulière sur cette question pour que des solutions idoines soient trouvées urgemment devant cette situation.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Moutaka.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Le responsable du groupe Martin Luther King à Goma répondait aux questions de Sifa Maguru. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.